Venez vous confier à Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Amina au 3921. Bonsoir Amina.
Oui, bonsoir.
Bonsoir. Alors Amina, hier soir nous avons échangé et puis nous nous étions quittés à 1h du matin et malheureusement vous n'aviez pas pu aller au bout de votre témoignage. Donc je vais essayer de donner un résumé de ce que vous m'avez raconté hier soir. N'hésitez pas à la fin à rajouter s'il manque quelque chose. Et puis, on va continuer. Donc, vous nous aviez parlé donc, de votre mari, hein, en tout cas de celui avec qui vous avez décidé de vous marier. Vous l'aviez rencontré en Algérie. Vous aviez 23 ans. Vous aviez fait des études en Algérie. Vous étiez plutôt une fille timide, en tout cas vous vous décriviez comme ça, mais avec votre caractère à vous, vous avez rencontré cet homme, ça n'était pas du tout un mariage arrangé, il avait l'air sérieux, il travaillait, il avait fait des études. Vous vous êtes marié en Algérie en 2010, et puis vous êtes arrivé en France pour le rejoindre, et là vous avez découvert un autre visage de votre mari, hein, votre tout nouveau et frère mari, puisque quand vous êtes arrivé en France, vous nous expliquez qu'il avait déjà légèrement changé. Mais peut-être est-ce l'amour hein, qui vous aveuglait, cet amour dont je parlais en début d'émission, qui faisait que vous ne vouliez pas complètement voir la réalité en face, mais cet homme vous brimait pas mal dans votre liberté, puisqu'il vous interdisait de conduire. Voilà, j'ai retenu... qu'il vous disait oui. « C'est ma voiture, à moi, c'est à moi, donc tu ne la conduis pas ». C'était ses affaires à lui, c'était toujours une demande de remerciement, car c'est lui qui vous nourrissait, qui vous entretenait, en même temps qu'il ne voulait pas que vous alliez travailler, parce que vous touchiez alors des allocations, et puis il vous disait que si vous alliez travailler, vous n'en toucheriez plus, ce qui était un faux sujet pour vous éviter de travailler finalement, hein, un prétexte. Et puis vous avez eu deux enfants, hein, des jumelles. Non, pas des jumelles, ce ne sont pas des jumelles. Hein. Si, ce sont des jumelles, d'accord. Et j'avais peur de faire une erreur. Et il se trouve qu'une de vos jumelles, la première fille, on a découvert qu'elle était... malade et qu'elle avait un handicap assez difficile à soigner en France, en tout cas, et que ce handicap avait été vraiment un déclic dans le comportement de votre mari qui, là, a changé, a basculé dans quelque chose de beaucoup plus difficile à supporter pour vous. Et nous en étions là. Oui. On en était là, hein, il me semble.
Tout à fait, oui.
D'accord. Alors, je vous écoute me raconter la suite. À partir de ce déclic, vous aviez évoqué aussi quelque chose d'important. C'est que cet homme, sous couvert de la religion, alors que vous m'avez dit alors les origines de votre pays, donc c'est l'Algérie, donc vous aviez une famille musulmane, mais que dans votre famille, il y avait des musulmans... pas très pratiquants, des athées, certains qui pratiquaient un peu, mais que finalement vous étiez issu d'une famille qui était très tolérante et qui n'obligeait personne à faire ceci, cela. En tout cas, tout le monde était très respectueux vis-à-vis de la spiritualité des uns et des autres.
Ah oui,
et que votre mari, qui ne pratiquait pas, tout à coup s'était découvert... en tout cas, vous avez découvert, vous, comme une femme musulmane qui devait obéir à son mari. C'est ce qui m'a retenu, parce que ce mot « obéis à ton mari », c'est toujours quelque chose qui me, vous comprenez, qui me fait drôle. Et on en était là.
D'accord. Donc, moi, les termes, à chaque fois qu'il utilisait ce genre de termes, ça ne pouvait que meurter. Donc, à chaque fois, il avait un comportement qui montrait, une fois de plus, qu'il était là pour la domination et qu'on ne faisait pas spécialement le couple dont je rêvais. Et franchement, ça me fait vraiment drôle parce que moi, j'estime qu'en ce moment, à l'heure actuelle, je suis sortie de son emprise, de sa coupe.
Oui.
Donc, ça me fait drôle. Et quand il me parlait comme ça, ça me faisait réagir, mais en même temps, je faisais concrètement rien du tout.
C'est-à-dire que vous, quand vous dites que vous ne faisiez rien du tout, vous ne faisiez rien dans le sens qu'il vous indiquait d'aller? Ou vous ne résistiez pas, en fait, vous vous accomplissiez? Est-ce que vous obéissiez?
Bah, pour certaines choses, j'avais pas spécialement le choix. Par exemple, quand j'ai voulu acheter une voiture, je pouvais pas prendre l'initiative de retirer l'argent, de faire la démarche toute seule. Il fallait vraiment que j'aie son autorisation pour que ça aboutisse à la façon dont il voulait, lui.
D'accord. Et
Donc,
est-ce que vous avez pu travailler à un moment quand même?
Non, pas du tout. J'ai commencé à faire une formation, et ça a été interrompu parce que, comme je vous ai dit, je suis tombée enceinte, c'était très compliqué.
Oui.
Après, avec l'arrivée des filles, c'était encore plus compliqué. Non. Non. Après, ma volonté d'être maman auprès de mes enfants, c'était vraiment ça ma préoccupation.
Oui,
C'était
oui.
vraiment ça ce que je voulais.
Oui, vous m'avez précisé ça hier soir, c'est que vous étiez
Oui.
vraiment, vous aviez vraiment l'envie de fonder une famille
Ah oui.
et vraiment de vous occuper de vos filles. Vous m'avez
Oui.
précisé ça hier soir pour me dire que voilà, le fait de travailler n'était pas une obsession en soi, parce que c'était plus les ordres qu'il vous donnait, hein,
C'était le fait que il me prive,
Oui, qu'ils vous interdisent.
il me laissait, voilà, le fait qu'il soit là juste pour me dire tu fais ci, tu fais ça, t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça, alors que si on me laissait le choix, alors que voilà, il a même pas à me laisser le choix, c'était pas à lui de mettre les limites. Voilà, je savais ce que je voulais en l'épousant, je savais ce que je voulais dans la vie et je sentais que je subissais un mode de vie que je voulais pas. Je voulais pas. Bon, il y avait des moments, bien sûr, il y avait des hauts et des bas, il y avait des moments où c'était sympa, des moments moins sympas, mais l'atmosphère générale, c'était voilà. Si j'obéissais, si je l'écoutais pas ou si je faisais pas comme il voulait, ben c'est la cata.
Et lorsque, j'ai oublié de vous poser la question, lorsque vous étiez, vous veniez de mettre au monde vos enfants,
Oui, oui.
on sait que ça demande beaucoup, beaucoup d'attention, hein, de la part des
Oui.
parents et surtout de la maman, puisque vous vouliez allaiter vos enfants, vous m'avez dit.
Oui. Oui.
Comment se comportait-il au moment où les enfants sont arrivés?
En fait, il était dans l'angoisse. Pour lui, c'était cataclysmique. C'était vraiment. Voilà, on aurait dit qu'on allait inviter on allait recevoir chez nous je sais pas. En tout cas, pas de bébé.
Comme si vous
Il
alliez
voulait.
recevoir une centaine d'invités chez vous, il était angoissé comme ça?
Bah comme ça,
Ouais.
oui. Il était en train de faire refaire la chambre, il était en train de refaire les meubles, alors que pour moi, sa présence me suffisait. Donc je lui disais que ça, c'était pas important, mais pour lui, oui. Donc pour qu'il n'assiste pas, il a décidé de fuir, mais il me disait que ça lui convenait de faire ainsi. Il faisait que pleurer. Je me rappelle, le lendemain de l'accouchement, il est venu. Bon, il a assisté à l'accouchement, il a pris les filles. Il voulait s'investir à sa manière, mais l'angoisse l'habitait vraiment.
Et cette angoisse, en
Oui.
fait, elle correspondait à
En
quel
fait,
type de peur, à votre avis? La peur de vous de perdre l'équilibre qu'il avait réussi à construire avec vous, la peur de vous perdre vous, ou que vous ne
je
puissiez
ne
plus vous
crois
occuper de lui comme il fallait?
J'étais incapable d'analyser, de comprendre elle correspondait à quoi. J'étais vraiment dans l'incapacité. J'ai tout de suite fait le lien avec mon arrivée en France. C'était exactement pareil. Il était tellement dans la peur, dans la crainte, que ce comportement-là, il peut gâcher vraiment l'instant.
Oui, il peut tout gâcher en fait.
Oui.
Et
Donc.
lorsque vous dites que c'est lorsque votre fille, lorsqu'on a
Oui.
découvert son handicap à votre première fille, que tout a basculé en fait,
Oui. Oui.
est-ce que c'est là, est-ce qu'il a changé ou est-ce que c'est vous qui avez finalement plus ouvert les yeux à ce moment-là, à votre avis?
J'étais en fait spectatrice de ces faits et ces actes. J'observais, je découvrais aussi, parce que pour moi, dépression, je ne savais pas qu'est-ce que ça voulait dire. Pour moi, au départ, c'était juste de l'inquiétude, c'était de la tristesse. Je me disais, c'est normal. Et en même temps, je me culpabilisais de ne pas être aussi triste que lui. Je dis, mais attends, c'est moi qui a mis au monde ces filles, mais je dois aussi être triste. Mais pourquoi j'ai l'impression que je suis en train de banaliser un état de santé de ma fille, alors qu'on vient de m'annoncer qu'elle a un retard, qu'elle sera pas comme sa sœur et tout. Il y avait de la tristesse de mon côté, mais pour moi, je distinguais déjà le couple parental et le couple conjugal. Je voulais pas confondre les deux couples. Mais tout de suite, avec cet événement-là, pour lui, tout a été confondu. Et là où c'est là où j'ai vu que voilà, c'était de la tri c'était la c'est ça dépassait de la tristesse.
Allô? Ah, on a perdu Amina. Amina, est-ce que vous êtes là? Nous avons retrouvé Amina. Amina, ça va, vous êtes là?
Oui, je suis là.
D'accord. Alors, la naissance de ces enfants, on voit qu'elle bouscule cet homme.
Oui.
Il vous faisait des reproches sur la venue de ses enfants. Est-ce qu'il a eu des réflexions comme ça autour du fait que voilà, le fait que vous ayez voulu, vous, cette famille?
Oui, ben, il me disait, c'est toi qui as voulu une famille nombreuse, c'est pas moi. C'est toi qui priais pour avoir des jumelles, filles. Donc ce n'était pas lui. C'était pas en fait un souhait partagé. Lui, il voulait qu'un seul enfant, voire même si on n'en avait pas des enfants, ça lui causait pas de problème.
Et tout ça,
Et
en fait,
oui.
toutes ces réflexions, surtout
Oui.
celle-là, ça ne vous a pas, vous ne vous êtes pas dit qu'il y avait un problème quand même, quand un homme commence à reprocher à sa femme d'avoir voulu des enfants, vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose en vous qui a dû vous se déclencher aussi.
Se
Vous n'êtes
déclencher, ben je me défendais pardon comme je pouvais. J'estime que à l'époque j'étais pas vraiment armée psychologiquement. C'est
D'accord.
ça qui me manquait. Et je répondais, j'ai envie de dire naïvement. Ben, on les a fait ensemble, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, ben c'est tes filles. C'était comme ça.
D'accord. Bon, vous avez fini par emmener votre fille se soigner à l'étranger?
Oui, on on les a, on l'a emmené. Mais avant ça, avant l'emmener, je suis retombée enceinte, donc c'était pas du tout programmé.
D'accord.
Un an et demi après. Donc, pareil, c'était une grossesse compliquée. On m'a annoncé au cinquième mois de grossesse, durant l'échographie morphologique, que mon bébé, il allait être, il avait deux signes d'appel, donc il pouvait être trisomique.
Oui.
Donc, encore une fois, c'était le coup de massue pour le couple. Et moi, c'était compliqué pour moi d'échanger, de discuter. Pour lui, c'était encore une fois une dépression. Encore une fois, j'attendais la chose venir. Je me suis dit, voilà, il l'a fait avec une des jumelles. Il va me la refaire parce que je voyais qu'il se comportait de la même manière. Parce que juste entre les deux, on avait fait une sorte de break. C'est moi qui ai demandé de faire ce break-là. Lui, il refusait. Pour lui, ce n'était pas important. Pour lui aussi, c'était, il me proposait des solutions qui étaient juste... franchement, pour moi, on ne pouvait pas les obtenir des solutions à notre mal-être, comme lire par exemple des livres. Pour moi, c'était vraiment des solutions disproportionnées par rapport à ce qu'on pouvait vivre aux événements.
Oui.
On avait vraiment besoin d'une tierce personne pour analyser, pour expliquer, pour...
évacuer certaines choses.
Évacuer, mais vraiment un regard...
extérieur.
Extérieur, oui.
Et ça, il n'en a pas voulu ? Il a refusé ?
C'était le refus. C'était vraiment le refus total. Il a accepté une fois. Donc, on a rencontré une personne et tout. La personne, elle a tout de suite cerner certaines choses qui me dérangeaient dans le couple, l'infantilisation, la non-extériorisation de certaines choses, par exemple extérioriser ou démontrer les sentiments. On pouvait vraiment passer à côté. Il pouvait me convaincre en me disant, voilà, tu vois pas qu'est-ce qu'on vit, je suis pas là-dedans et tout. Mais moi, pour moi, franchement, quand il me répondait comme ça, je me mettais tout le temps en question. Je dis, mais attends, peut-être il a raison, on est en train de vivre une catastrophe, on n'a pas besoin de se retrouver. Ou... j'étais tout le temps dans le doute.
J'ai l'impression que vous étiez même un peu perdue.
J'étais tout le temps dans... je me débattais comme je pouvais.
Oui.
Et voilà, donc j'en parlais un petit peu à mon entourage, notamment ses parents. Donc pour mes parents, voilà, ils me disaient qu'il était triste, c'est normal et tout. J'y vais, mais ça prend vraiment des proportions... qui sont pas
qui sont pas normales, qui sont inquiétantes.
Oui.
Quand ça a dégénéré en fait, parce qu'à un moment c'est allé plus loin.
Oui, tout à fait. Quand ça a dégénéré, en fait moi je tirais la sonnette d'alarme. Je disais que voilà, je n'en peux plus de cette relation là. Si tu veux qu'on fasse une thérapie de couple ou il faut qu'on aille consulter un psychiatre ou un psy, parce que ça ne me dérangeait pas du tout. Ces refus, pour moi, il était pas... en fait, ces arguments, ils n'étaient pas du tout fondés. Ils disaient, on peut gérer nos problèmes tous les deux, en communiquant, en lisant le livre, parce qu'il a un seul livre, et il faisait vraiment une obsession là-dessus.
Quel livre ?
Les femmes viennent de Mars et les hommes de Vénus.
Bon, oui, qui n'est pas une...
qui n'est... Il reste un best-seller.
Oui, c'est, alors, c'est un best-seller, hein, c'est vrai. Ça, c'est certain. Et oui. Qui n'est pas dénué de choses assez réelles, assez vraies. Hein. Il est plutôt bien vu, ce bouquin. Enfin, en tout cas, il est marrant, mais on ne va pas dire que... Enfin, on va dire qu'il survole un peu les choses.
Oui, oui. Bah, pour moi, franchement, les problèmes qu'on avait, c'était vraiment...
Mais oui, je me doute.
C'était du sérieux.
Oui.
Bah, je lui disais, un livre, il ne peut pas me mettre en question. Il ne peut pas me dire, voilà, t'as tel défaut, t'as tel... tu ne dois pas te comporter comme ça et tout.
Bah, sûrement pas celui-là, en tout cas. Ça, c'est certain.
Oui, oui. Donc, quand est-ce que ça a dégénéré? C'était... quand on est parti à l'étranger pour soigner notre fille, on est resté, moi je suis restée 3 semaines, donc j'ai confié mes 2 enfants à la belle-mère. Lui, il est resté avec notre fille, donc 1 mois et demi. Il voulait pas spécialement rester, il m'a demandé de rester et tout. Après, en échange avec mes parents et ma famille et tout, ils m'ont dit hors de question que tu restes, ça reste aussi l'étranger, c'est lui le papa. Donc voilà.
On va marquer une légère pause, hein. On va le temps de l'information sur Europe 1, et puis vous allez nous raconter la fin de cette histoire, votre séparation et ce pourquoi vous vous êtes séparé de cet homme. Vous restez avec moi, Mina, et on se retrouve juste après le flash, d'accord ? À tout à l'heure.
D'accord.
À tout à l'heure.
Europe 1, 22h30, 1h, la libre antenne. Olivier Delacroix.
Passées de 3 minutes et vous êtes sur votre radio Europe 1 pour votre libre antenne. Nous sommes depuis le début de cette émission avec Amina qui nous parle de son ex-mari, de son mariage, de la naissance de ses jumelles et puis du comportement de ce mari qui a changé dès leur retour une fois mariés en France. Et un comportement qui n'a cessé de se dégrader. Amina, vous en étiez au départ hein, pour partir soigner votre fille, faire soigner votre fille à l'étranger. Il ne voulait pas venir avec vous. C'était entendu qu'il garde votre autre fille. Est-ce que là, à ce moment-là, les choses étaient claires ou est-ce que ça a été encore compliqué ?
Non, ça a été compliqué. Déjà avant de décider, de prendre cette décision-là, de partir à l'étranger. C'était mon choix, c'était mon souhait à moi. Après, je voyais qu'il déprimait, je voyais par rapport à cette fille, parce qu'il n'arrivait pas à verbaliser certaines choses. Donc, il faisait que me réclamer pour l'épauler, pour l'écouter, comme je vous ai dit, à n'importe quel moment, n'importe quel... je me rappelle une fois, j'étais en train d'allaiter mon bébé, il me demandait de poser et le bébé est tout arrêté pour aller à son secours. Et je ne trouvais pas ça normal.
Bien sûr, ça n'était pas normal.
Oui, ce n'était pas du tout normal. J'en parlais à sa mère, elle me disait, voilà, il déprime. C'est là la première personne qui emploie le terme dépression. Il me dit qu'il est en train de déprimer et il était dans tous ses états. Il pouvait se rouler par terre, déchirer ses vêtements. Il me disait, mais secours ton mari, secours ton mari. À ce moment-là, ces paroles-là. Ouais.
C'était grave comme comportement quand même.
C'était grave, mais on était là en train de dédramatiser
son comportement.
La situation, ouais. Son comportement, notamment sa mère. Elle avait les bras croisés, me regardait comme ça. Secours ton mari, tu fais quoi? Tu vois ton mari, il est par terre, tu fais quoi? Secours-le.
C'est-à-dire qu'on vous remettait tout sur le dos, en fait.
Oui. C'était ça. J'étais la maman, donc il fallait que j'aille au secours de cet homme-là.
Vous m'avez dit aussi hier qu'il n'avait jamais accepté le handicap de son enfant.
Hein. Il l'a jamais accepté, surtout ma fille. Il était en train de tourner autour du pot, il déprimait et tout, il me disait tout le temps « j'ai un truc à te dire, il faut qu'on parle, mais regarde, tu ne m'accueilles pas, tu ne fais pas le nécessaire pour me mettre à l'aise pour te dire ce truc-là ». Et moi, tout le temps, je le repoussais. Je dis, vu comme il est, il ne va pas me dire quelque chose qui va me réconforter par rapport à cette fille-là. Donc, ça a pris énormément de temps jusqu'à ce que je bloque un moment pour lui, pour l'écouter. Il a pris presque 3 heures. Ça pouvait vraiment partir entre... C'était des montagnes russes, en fait. Le mutisme, après, des reproches, mutisme, reproches. Et à la fin... Il m'a dit, je voulais pas que cette fille-là fasse partie de ma vie. J'espérais sa mort. Je souhaite sa mort. Et ce sentiment-là, il m'est insupportable.
Bien sûr.
Il espérait que si il lui arrive un accident, il est avec les 3 enfants... Il m'a dit comme ça, textuellement, j'espérais que cette fille-là passe dans l'accident.
C'est ce qui a fait exploser votre couple, ça, à ce moment-là, parce que vous avez fini par vous séparer de cet homme.
Oui.
C'est à ce moment-là, quand vous êtes parti faire soigner votre fille et que vous êtes revenu.
C'était au retour.
C'était
au retour. On n'a pas obtenu ce qu'on espérait, mais bon, pour moi, ce n'était pas la fin du monde, ce n'était pas catastrophique. J'étais extrêmement déçue, tout comme lui. Mais pour lui, c'était vraiment la goutte qui pouvait déborder encore une fois le verre. Donc, il sombrait encore une fois dans la dépression. Il ne voulait pas sortir. Il pleurait. Il habitait chez sa mère. Quand il fallait échanger, c'était lui qui avait le monopole des conversations. Et il pouvait même physiquement me bâillonner la bouche en me disant que, tu écoutes le professeur, je suis ton professeur. Ça me fait sourire parce que là, je voyais un petit peu la dégradation de sa volonté de me contrôler.
Oui, enfin, il était...
Donc, avant, c'était sur le plan psychologique.
Il avait un souci, votre mari, votre ex-mari.
Ah oui. Il me bâillonnait la bouche. Il pouvait vraiment me tirer vers du menton ou mettre carrément les paumes de ses mains sur mes joues. Donc, mais vraiment infantilisant pour moi. Je dis, mais tu me lâches, tu me tiens pas comme ça. C'est là où j'ai refusé ce comportement-là étrange, effectivement.
Vous avez dit à Florian qu'il vous enfermait aussi.
Il m'enfermait, oui. Je pouvais être enfermée dans des pièces. Mes enfants, ils étaient derrière la porte. Je pouvais vraiment transpirer. Il m'interdisait de sortir des pièces. Il mettait vraiment... ses bras ouverts comme ça pour m'interdire. Je pouvais passer sous ses aisselles, mais il m'interdisait, il fermait les portes pour écouter ses monologues. C'est même pas échanger, parce que c'était lui le professeur et j'étais son élève. Et en fait, ce qui pouvait vraiment me sauver ou me réconforter, c'est de dire amen à ses prières. Il fallait vraiment que je dise oui, même si je suis pas convaincue, même c'est vraiment pour avoir de la paix,
pour s'aider,
pour vraiment m'occuper des enfants. J'ai dit oui, je suis ton élève. Et ça m'amusait de le voir, oui, il me croyait, il pouvait me croire, oui, je suis ton élève, oui, donc ça le rassasie en fait.
Vous êtes parti quand et dans quelles conditions en fait?
en 2000, quand, c'est-à-dire...
C'est-à-dire à quel moment, vous, couple, a... oui, à quel moment vous avez décidé de partir?
En fait, c'est quand les choses ont dégénéré. Donc, c'était la violence a commencé à être physique.
Oui.
Il me bâillonnait, il prenait pas du tout au sérieux ses responsabilités, en prétextant que voilà, c'est lui qui ramène l'argent, c'est lui qui travaillait, c'est lui qui... Il est le boss, donc voilà, je n'ai rien à lui reprocher. À la maison, c'est quelqu'un de très minutieux. Là, j'emploie ce terme-là, mais vraiment très... On m'a expliqué comment il était, son état de santé mentale, on va dire. C'est un maniaco-dépressif.
Oui.
Sa façon d'être, comment il étend le linge, comment il nettoie le... comment il était avec nous. En fait, il vivait avec nous, mais enfin, il vivait à la maison, mais c'était pas avec nous. Comme si que moi et les enfants, on était une famille, et lui, il était encore dans le célibat. Donc, il pouvait préparer son petit déjeuner, il a toujours lavé son linge. C'est pour ça que je veux témoigner aujourd'hui. Pour sensibiliser certaines personnes. Parce que cette façon de faire, cette façon de c'est pas un comportement, une façon d'être, elle n'est pas, finalement, c'est pas normal.
Non, mais je crois que toutes celles et ceux qui vous écoutent ce soir ont bien compris qu'il y avait un gros problème. Mais depuis le début, vous qualifieriez... Vous qualifieriez son comportement, parce que vous avez parlé de pervers narcissique à Florian.
Oui, oui.
Pour vous, c'était... C'était ce comportement-là?
Là, c'était encore... Là, il était maniaco-dépressif. Donc, il me parlait tout le temps. Il pouvait employer des termes. Et là, encore une fois, c'était des professionnels qui m'ont ouvert les yeux. Ils me parlaient tout le temps de l'organisation, organisation, organisation. Et je disais, mais pourquoi ils m'emploient ce terme-là, organisation, communication et solidarité? Mais d'une manière obsessionnelle. Donc, c'était des signes de dépression. Et pour moi, organisation, à côté, je suis passée vraiment à côté de la plaque. Donc, j'ai tout mis... en place pour le satisfaire. Donc j'étais vraiment à fond dans l'organisation de la maison. Je prenais des photos avant et après, et je lui montrais, regarde comment je fais, regarde si c'est ça qui te dérange, regarde comment elle est devenue la maison. Mais non, une fois il m'a dit, parce que j'avais aussi du personnel qui venait chez moi pour m'aider pour les soins ou pour le quotidien, je disais, mais regarde, ils disent que l'état général de la maison, il n'est pas catastrophique. Ils me disaient, ben non, ils ne te rendent pas service. Donc là, j'ai compris qu'ils ne voulaient pas vraiment de l'organisation. C'était vraiment des signes pathologiques.
Bon, vous avez décidé de partir. Comment allez-vous aujourd'hui?
J'ai décidé de partir parce que bon, j'ai découvert qu'il était pervers narcissique. Et là, ma psychologue, elle m'a dit la solution, c'est vraiment de partir. Il ne faut pas lui donner des chances. Quand les choses ont basculé, entre nous, il y avait de la violence. Il a décidé de faire des mains courantes. À mon insu, donc j'étais pas du tout au courant. Il pouvait rentrer à la maison, me demander des nouvelles, manger, avoir des relations même intimes. Donc j'étais vraiment à fond, encore une fois, j'étais très déçue de son non-investissement. Je lui disais que voilà, j'en pouvais plus, j'étais proche du burn-out. Donc il fallait urger. Et face à ça, j'avais une personne qui fuyait, qui était en cavale, qui ne voulait pas du tout entendre les choses en face. Ben, s'il voulait, je voulais qu'on discute, c'était vraiment l'écouter et obéir, c'est tout. Mmh. Et au final, un soir, il revenait de chez sa mère. Donc, on avait des petits soucis à l'école comme... J'ai ma fille qui avait un handicap, mon fils qui était hyper actif. Donc, on a jusqu'à présent, il n'y a pas de diagnostic, chose qui a Je sais pas, je pourrais même pas dire dégrader les choses. Pour moi, c'est mes enfants, je les assume, je les aime, c'est comme ça. Mais pour lui, c'était encore une claque. Donc, je lui demandais un compte rendu de l'école, il ne me répondait pas. Parce qu'en fait, il avait échafaudé un plan et il refusait vraiment de me parler, chose qui me provoquait. Donc, il me disait que si je voulais communiquer, c'était juste par rapport aux enfants, c'était pas par rapport au couple. Donc, je refusais ça. Et face à ses agissements, donc face au fait qu'il me bâillonnait la bouche, je disais, bah, si tu fais mal, moi aussi je suis capable de te faire mal. Moi aussi je suis capable de réagir. Et ce soir-là, il m'a encore fait le coup, donc je l'ai mordu. Monsieur décide de porter plainte. J'étais bien entendu pas au courant. Et on vivait ensemble. C'était pas la grande joie, mais c'était très très tendu entre nous. Un mercredi matin, on m'appelle comme quoi, voilà, je suis convoquée au commissariat. Je dis, pourquoi? On me dit, bah, évidemment, ils vont pas me dire le motif par téléphone. Je me présente. Bah, madame, il y a des faits de violence de votre part à l'égard de votre mari. J'apprends qu'il y avait pas mal de mains courantes et une plainte. Donc là, je suis tombée des pommes
Ben
et je me
oui.
suis dit, ben voilà, voilà. La trahison.
Ben, vous ne pouviez pas accepter ça. D'ailleurs,
Moi, je peux
vous ne
pas.
l'avez pas accepté.
Je ne l'accepte pas, alors que 2, 3 ans avant, j'étais transportée par les pompiers et j'avais fait un malaise à 1 semaine avant l'accouchement. Et c'était à cause de lui. J'allais perdre mon bébé et je me suis tue.
Bon,
Donc,
en tout cas, aujourd'hui, vous allez
oui.
mieux, Amina. Vous êtes seule avec vos enfants, ça se passe bien?
Je suis seule avec mes enfants. J'essaie de faire un travail sur moi.
Oui.
J'ai pris du recul. J'ai bien conscience que, parce que lui, il n'a pas accepté le divorce. Jusqu'à présent, il l'accepte pas du tout. Il a fait ça, il l'a justifié comme étant juste un électrochoc pour le couple. Il voulait me faire un électrochoc. C'était pas contre moi. Il considère pas comme
Oui. Enfin, ça,
il
c'est
me
encore,
considère.
ouais, ça va encore dans le même sens de tout ce qu'il vous a fait. Il vous explique que c'est un électrochoc, que c'était pour vous faire changer, pour vous faire prendre conscience que. Mais c'est inacceptable d'avoir fait ça, inacceptable. On ne porte pas plainte contre sa femme comme ça derrière. Elle ne découvre pas au commissariat que son mari a porté plainte sans rien lui dire. Sans, voilà, c'est.
Ben surtout, c'était prémédité. Il y avait des mains courantes. Alors qu'on sortait ensemble, on pouvait faire des choses ensemble. Moi, comment il pouvait être changé d'état d'âme, il pouvait être vraiment dans l'intimité et voilà, je t'aime, me draguer, t'es sexy, et de l'autre côté, porter plainte.
Ouais.
Mon cerveau, je comprends pas. En fait.
Bon, en tout cas, vous avez pris la bonne décision, Amina. Hein, je peux
Oui.
juste vous le dire et continuer ce travail sur vous. Ça doit bien évidemment ne pas être facile, mais continuer hein, ce travail sur vous et tenez bon parce qu'il n'y a pas d'électrochoc. Je pense que cet homme, il faut le garder le plus loin de vous maintenant, désormais, et puis que vous fassiez votre vie de la meilleure manière qui soit. Et puis, vous savez, aujourd'hui, vous pouvez la refaire, cette vie. Hein. Elle est encore devant vous, cette vie. Donc, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui aura les mêmes valeurs que vous et surtout le même courage. Parce que vous avez eu quand même beaucoup de courage hein, de supporter cette situation-là. J'espère que vous en êtes
Oui.
consciente hein, de ça.
Oui, bah, j'étais très bien entourée, j'avais des amis, des voisines qui m'ont très bien soutenue. Donc c'était ma famille ici en France. Je tiens à les remercier parce que sans elles, je pense pas que j'aurais pu être la personne que je suis aujourd'hui. Et en même temps, franchement, la réconciliation avec la gent masculine,
Elle n'est pas encore
ça
là.
reste un petit peu.
Ouais.
Ouais.
Ouais. Mais ça viendra, ça. En tout cas, merci mille fois, Amina, d'avoir
Oui.
pris du temps pour nous raconter votre histoire, parce que je pense que beaucoup de femmes se reconnaîtront aussi dans l'attitude que vous avez eue, la patience, le courage que vous avez eu, et puis identifieront sans doute aussi dans le comportement de de celui qui partage leur vie. Des comportements communs avec votre ex-mari. Portez-vous bien et
Merci.
puis embrassez les enfants pour nous, d'accord?
Merci.
Au
Oui.
revoir, Amina.
Merci.
Au
Merci.
revoir.
Au revoir.